France Culture.
Our children are instructed from propaganda tracks like those of Howard Zinn that try to make students ashamed of their own history.
Howard Zinn, pour Donald Trump, représente la lie d'un propagandiste qui est responsable pour une version mensongère de l'histoire. Et évidemment, il pose problème à un président comme Trump de par l'influence de son travail. Ce qui fait son caractère subversif, c'est qu'il est populaire, quoi. C'est que son œuvre continue d'inspirer.
J'en avais jamais entendu parler. D'ailleurs, quand j'en parle autour de moi, les gens connaissent rarement. Et je suis vachement étonnée parce que depuis, je me suis renseignée sur Howard Zinn et il a fait quand même énormément de choses. Enfin, c'est quelqu'un d'incroyable. Donc, je comprends pas qu'il ne soit pas encore si connu en France.
Howard Zinn n'a certainement pas fait l'unanimité. Encore que quand on a vendu 2 millions d'exemplaires d'un ouvrage, on a envie de dire que c'est une forme d'unanimité, surtout c'est un ouvrage de plus de 800 pages et que la première édition date des années 80 et que jusqu'à aujourd'hui c'est un ouvrage qui continue à se vendre comme un classique, alors même que Howard Zinn, ça commence à faire un certain temps qu'il ne l'a pas renouvelé.
Zinn a amené cette notion aux États-Unis parce qu'elle existait en France, mais aux États-Unis elle était pas très courante, qu'on pouvait raconter l'histoire par en bas, quoi. C'est-à-dire faire une sorte de contre-histoire en racontant les petites actions héroïques, en fait, de tout un peuple qui a fait changer les choses et a contribué au progrès social.
Zinn est connu dans certains milieux en France, mais c'est vrai qu'il est moins connu du grand public que Noam Chomsky, par exemple, qui, lui, est extrêmement populaire. Pourtant, ils étaient très amis tous les deux, c'est camarades de lutte. Ils se sont rencontrés à Boston, hein, donc ils étaient tous les deux universitaires. Hein, donc Chomsky au MIT, Zinn à Boston University. Et c'est dans la contestation contre la guerre du Vietnam que vraiment ils se lient d'amitié, ils participent aux manifestations ensemble, ils prononcent des discours contre la guerre ensemble, sont inséparables, hein, c'est vraiment des militants durant toutes ces années. D'ailleurs, ils sont ensemble au moment où ils apprennent que la guerre contre le Vietnam est terminée.
Si la vision de l'histoire des États-Unis par Howard Zinn dérange autant Donald Trump et ses partisans, c'est qu'elle touche un point sensible. Elle révèle la part d'ombre du rêve américain. Plongé au cœur des événements qui ont marqué le XXe siècle, Howard Zinn a bouleversé notre façon d'aborder l'histoire en renversant les perspectives. Tout à la fois un historien qui a battu en brèche l'histoire officielle et qui affiche clairement ses convictions, un militant qui a refusé d'obéir en silence, un vétéran pacifiste qui a critiqué sa patrie et un universitaire qui a écrit plusieurs pièces de théâtre. Outre-Atlantique, Zinn est une figure incontournable de la contre-culture américaine. En France, son œuvre a été connue sur le tard, au tournant des années 2000, avec la publication de ses ouvrages par la maison d'édition indépendante Agon, puis la version de son histoire populaire des États-Unis en bande dessinée, et la série d'émissions que lui a consacrée Daniel Mermet dans « Là-bas si j'y suis » sur France Inter. Howard Zinn, l'autre visage de l'Amérique, un documentaire de Pierre Lorimi, réalisé par Gilles Blanchard.
Howard Zinn, c'est un prof d'histoire, mais c'est un historien parce qu'il a beaucoup produit de textes, dont le plus fameux, évidemment, est une histoire populaire des États-Unis, qui s'est vendue à 2 millions d'exemplaires aux États-Unis, qui a été traduit en français, bon, qui a été diffusé dans le monde entier, parce qu'en fait, il se place dans l'histoire et à travers son récit il fait aussi de l'histoire. Et ce qui est marquant chez Howard Zinn, c'est que c'est un historien qui a vécu avant d'écrire l'histoire. Et il a vécu parce que il est un enfant de la classe ouvrière, de la crise, de la Grande Dépression des années 30. C'est-à-dire qu'il vit la Grande Dépression dans sa chair et dans sa famille, puisque ses parents sont des migrants des pays de l'Est qui arrivent aux États-Unis et qui travaillent dans la classe ouvrière. Donc lui, il vit comme un enfant des rues de Brooklyn avec des copains qui partent pour la guerre d'Espagne quand ils sont ados.
Le contexte social dans lequel Zinn a grandi est celui d'une immense précarité économique. C'est un juif immigré de seconde génération qui grandit à Brooklyn. Il est l'aîné de 4 enfants, mais avant lui, ses parents avaient eu un premier garçon qui est décédé à l'âge de 5 ans d'une méningite à cause des conditions matérielles extrêmement dures, extrêmement rudes, dans lesquelles se trouvaient les parents de Zine. On est dans un contexte où la priorité, c'est la survie de la cellule familiale. La Grande Dépression s'abat sur cette famille comme sur des millions d'autres. Et le père de Howard en paie les frais. Hein, donc il quitte l'usine, il devient serveur et aura des difficultés toute sa vie en fait à trouver une situation économique stable, professionnelle stable.
In my milieu, in my neighborhood,
Howard Zinn,
my working class culture, at the age of 18, kids did not go to college, they went to work, and so did I.
Et c'était comme ça que ça se passait dans mon quartier, dans mon milieu, dans la culture ouvrière. À 18 ans, on n'allait pas étudier, on allait bosser.
Pour le jeune Howard, à observer son père souffrir tant de cette précarité économique.
Ambre Ivol, maîtresse de conférence à Nantes Université.
Il y a une espèce de fidélité en fait à la trajectoire de son père, dans laquelle il va lui-même s'engouffrer d'ailleurs, puisqu'il est amené à faire le même type de travail que son père, donc il devient serveur à son tour, et en même temps, il est différent de son père.
Il va devenir ouvrier sur le port, je crois que c'est à Boston, et donc rentrer dans le monde syndical et donc participer aux premières manifestations.
Thierry Di Cepolo, éditeur des ouvrages de Howard Zinn en France et traducteur de ses pièces de théâtre.
Et les premières manifestations auxquelles Howard Zinn participe vont mal tourner et ça va être l'affrontement avec la part la plus dure de l'État, c'est-à-dire la matraque.
Parmi les épisodes qui ont beaucoup marqué, il y a cette fameuse manifestation de l'été 1939 à Times Square. Times Square, c'est en gros, c'est la place de la République à Manhattan, quoi, où s'organisent toutes les grandes manifestations, contestations sociales à New York, voilà, elles se déroulent là-bas. C'est à ce moment-là que Zinn participe à sa première manifestation anti-guerre. Alors, ce que Zinn nous rapporte de cet épisode, c'est qu'il va être confronté aux violences policières, puisqu'il va se retrouver frappé au visage par la police montée de New York et il perd connaissance et lorsqu'il se réveille, la manif a disparu et voilà, il est seul sous un porche.
So it was the beginning of the war. And the war was had just started in Europe and then I worked several years in the Navy Yard, and I decided I wanted to enlist in the Air Force.
C'était donc au début de la guerre, qui venait juste de commencer en Europe. Et moi, j'ai travaillé quelques années sur ces chantiers navals, et puis j'ai décidé de m'engager dans l'armée de l'air.
Because I was reading, I was 17, 18, I was a young radical, I was reading about fascism in Europe. And so, it was the desire to join the struggle against fascism that I wanted to enter the military.
Je suis rentré dans l'armée vraiment par cette volonté de combattre le fascisme parce que à 17-18 ans, je lisais au sujet du fascisme, je lisais au sujet de tout ce qui se passait en Europe.
Et il va être enthousiasmé de participer à cette grande guerre contre le fascisme. Mais à bord d'un des bombardiers, il va avoir des longues discussions avec quelqu'un qui était probablement beaucoup plus formé que lui en politique et qui va commencer à lui mettre en doute la légitimité de cette guerre à laquelle il participe et que plutôt qu'une guerre juste contre le fascisme, c'est peut-être aussi une guerre dans laquelle les puissances impérialistes sont partie prenante. Donc ça a aussi modifié sa vision de cette guerre-là et évidemment la bombe atomique, mais avant la bombe atomique, il y a un événement qui est plus directement lié au Howard Zinn, c'est qu'il a fait partie des bombardiers qui vont jeter des bombes au napalm au-dessus de Royan.
Zinn part comme bombardier de l'US Air Force, il a 21 ans, il part lutter contre le fascisme, c'est un enfant de la classe ouvrière, il a lu effectivement Marx, il est antifasciste. Il va se bagarrer, donc au départ, voilà, Zinn, c'est ça.
Olivier Azam, documentariste et producteur, auteur d'une série documentaire sur Howard Zinn avec Daniel Mermet.
Et donc, il va vivre des contradictions, il va rencontrer des gens, il va notamment vivre ce qu'est le statut d'un militaire qui obéit à des ordres qui sont parfois absurdes, et donc il va être très, très traumatisé après coup par les bombardements de Royan. Lui, il est dans la deuxième vague, le premier détruit la ville. Il s'est dit, mais pourquoi on est en train de bombarder? La guerre est finie, on est en 45, on est en avril 45. On est en train de bombarder une ville, il n'y a aucun enjeu militaire. On essaye le napalm, c'est les premiers bombardements au napalm. Bon, on a quand même un terrain d'expérimentation. En même temps, ça fait une victoire pour les troupes françaises qui sont là. Enfin bon, quoi qu'il en soit, cette histoire va le marquer énormément.
After the war, as we were being briefed, as we were being given our instructions about the bombing, nobody thought to question this. None of us stood up and asked, why are we bombing when the war is almost over?
Et ce qui m'est resté de cette expérience, qui m'a fait vraiment me poser des questions, c'est que quand on avait le briefing avant le bombardement, quand on nous donnait les instructions pour bombarder, personne ne s'est levé pour dire « Mais pourquoi on va faire ce bombardement alors que la guerre est presque finie ?»
Learn something about the military mentality, you know?
C'est quelque chose qui touchait à la mentalité des militaires.
Yeah. Just automatically follow orders, you see.
D'obéir aveuglément aux ordres.
Especially since they told us that we were going to drop on Moyen a different kind of bomb. Not the usual demolition bomb, but as they called it, cylinders of jellied gasoline, with napalm.
D'autant qu'on nous a appris à ce moment-là, pendant ce briefing, que les bombes qu'on allait larguer sur Royan n'étaient pas les bombes habituelles qui détruisaient des édifices, mais c'était de l'essence gélifiée, ce qu'on appelle en fait le napalm.
Et l'autre grande histoire qui va énormément le marquer, en fait, il la vit tout de suite, dès qu'il rentre dans le Queen Mary qui va l'amener, le bateau qui va l'amener en Angleterre, il va vivre la ségrégation des soldats noirs. Lui qui est de Brooklyn, c'est pas un truc évident. Il découvre, en fait, une partie de l'Amérique qui est plutôt celle du Sud, quand même. Mais il la découvre parce qu'en fait, la ségrégation, elle s'applique pour les soldats noirs. Quand il arrive sur le bateau, il découvre effectivement une ségrégation qui est pour lui une sorte de reproduction des convois d'esclaves, puisqu'il les trouve à la cale. Ils n'ont pas le droit de manger au même endroit que les autres soldats, ou ils mangent après quand les autres. Il se retrouve dans une situation complètement dingue qu'il n'imaginait même pas, en fait. Et donc, ça, c'est sa première découverte, quoi, de la Deuxième Guerre mondiale.
La guerre se termine pour lui plus tôt que prévu, donc il rentre aux États-Unis, donc il est vétéran. Et à ce titre, le statut d'ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale est très particulier parce que le président Roosevelt avait mis en place tout un système d'aide sociale, c'est le GI Bill de l'année 44, loi grâce à laquelle ces anciens combattants vont pouvoir bénéficier de financement pour obtenir un logement, pour reprendre leurs études ou pour trouver du travail. Il va finalement se sortir de la précarité. Donc pendant quelques années, il galère entre périodes de chômage, petit boulot, enfin il fait vraiment de tout jusqu'à ce que il fasse le pas d'aller à l'université. Donc d'abord à NYU, à New York University, pour son, en gros, l'équivalent du DUG, et puis ensuite à Columbia pour son master et sa thèse. Durant l'année 56, parce qu'il est en thèse à Columbia, le président d'une université à Atlanta pour jeunes femmes africaines-américaines, donc Spelman College, lui propose de rejoindre l'équipe enseignante et d'être le directeur du tout petit département de sciences sociales.
Ça va pas être si facile que ça, puisque entre le moment où il est diplômé de l'université et le moment où il a fini par avoir un poste, il est quand même manutentionnaire entre les deux. Donc tout ça prend du temps, d'accord? Donc c'est un monsieur qui a une quarantaine d'années, qui arrive et qui a un poste dans une université noire du Sud. Donc c'est pas exactement l'endroit où les universitaires blancs rêvent d'aller.
Quitter New York pour le Sud ségrégationniste, c'est vraiment la chance de sa vie, en fait. Il y a un déplacement du centre de gravité des mobilisations sociales. C'est plus dans les grandes villes du Nord, en tout cas certainement pas à New York avec le macartisme ambiant, mais dans le Sud que la contestation monte. Donc il s'installe à Spelman avec sa compagne Roselyne et ses deux enfants, donc Myla et Jeff.
Spelman College, Atlanta, Georgia, right? The deep south.
Yeah. Le sud profond.
Yeah. And it seemed that black people were powerless.
il semblait effectivement que les Noirs étaient impuissants.
White people controlled everything. They controlled the courts, the police, everything.
Les Blancs contrôlaient tout, contrôlaient la police et contrôlaient le système judiciaire.
And the national government did not interfere with that control.
Et le gouvernement fédéral n'intervenait pas du tout, en fait, par rapport à ce pouvoir des Blancs dans le sud des États-Unis.
And so when black people decided that they must change their situation, they knew they had to do it themselves.
Et donc quand les Noirs ont décidé qu'il fallait qu'ils changent leur propre situation, ils savaient qu'il fallait qu'ils le fassent eux-mêmes.
And so they created, little by little, a great social movement which galvanized the whole country.
Et peu à peu, ils ont construit un grand mouvement social qui a galvanisé le pays tout entier.
And only when this happened, only when black people themselves organized and demonstrated and went to prison and were killed and were beaten, only when this happened did the federal government finally respond.
Et ça n'est que quand les Noirs eux-mêmes ont commencé à manifester, à se faire arrêter, à aller en prison. Ça n'est qu'à ce moment-là, en fait, que le gouvernement fédéral a décidé de faire quelque chose.
Il va s'inscrire dans le travail des historiens sur la bataille pour les droits civiques dans le sud des États-Unis. Mais il va y apporter son propre travail. Et son travail, ça va être directement sur place, des comptes rendus, au début pour la presse, sur ces moments extrêmement violents qui ont été les campagnes de protection de l'inscription des Noirs sur les listes électorales. C'est très trivial. On n'imagine pas à quel point ce qu'on appelle la bataille pour les droits civiques était faite de choses triviales. Il fallait simplement protéger les possibilités pour les Noirs de s'inscrire sur la liste électorale. Le premier ouvrage sur le travail mené par ce militantisme-là, c'est lui qui l'écrit.
La participation de Howard Zinn au mouvement de libération noire commence très tôt, dès 1957. Et puis va se poursuivre jusqu'en 1963, date à laquelle il est licencié. Il prend des initiatives pour lancer des mobilisations, des formes d'action directes en concertation avec ses étudiantes. Donc ça va de occuper un restaurant, à participer à la déségrégation des bibliothèques municipales de la ville. Et à l'inverse, il y a des initiatives qui sont le fait de ses étudiantes et qui vont l'inclure.
Notre appartement à Atlanta était dans le campus de Spelman College. Il servait de base pour les étudiants pour organiser des manifestations.
Jeff Zinn, fils d'Howard Zinn.
Je me souviens de voir dans mon salon de nombreux étudiants qui discutaient de droits civiques, de politique de manière générale. Mon père était également chef du département d'études non occidentales. Et donc, il accueillait beaucoup de visiteurs étrangers, certains d'entre eux assez connus, notamment Zhou Enlai du Parti communiste chinois. Et donc, c'était quelque chose qui se faisait beaucoup là où on habitait.
Donc ça nous amène jusqu'à l'année 63, date à laquelle donc Zinn est licencié. Licencié parce que les étudiantes en fait de l'université vont se mettre à critiquer les règles auxquelles elles sont soumises en tant que femmes. Et Zinn les soutient à fond, il est aussi leur porte-parole à ce titre. Et donc, pour le président noir, c'est inacceptable, quoi.
Les mobilisations un petit peu trop voyantes, même d'un universitaire blanc, à son coup. Donc, trop de bruit, trop de mouvement. On entendait parler un petit peu trop de lui, de ses étudiantes notamment, qui prenaient trop de place. Et donc, la bourgeoisie noire, et comme toute bourgeoisie, elle est conservatrice. Donc, on l'a remercié.
Il va facilement retrouver du travail, donc il sera recruté par le département de sciences politiques à Boston University, donc dans le Massachusetts, donc il va quitter le Sud, se réinstaller au nord du pays, et
De la même manière qu'il est inspiré par ses étudiantes à Spelman College pour s'engager, s'investir dans le mouvement antiraciste, il sera inspiré par ses étudiants à Boston University pour faire de même contre la guerre du Vietnam. Donc il y a encore une fois là, c'est la flamme de la jeunesse quoi, qui va aussi allumer chez lui un désir de contestation.
Pour la première fois s'est déroulée aux États-Unis une marche de protestation massive contre la guerre au Vietnam, à laquelle s'étaient jointes les organisations antiségrégationnistes noires. À Chicago, à Washington et surtout à New York, les pacifistes sont descendus dans la rue en arborant le drapeau du Viet Cong. Plusieurs jeunes Américains ont brûlé leur livret militaire devant quelques 150 000 manifestants qui ont entendu ensuite plusieurs orateurs, dont le pasteur Martin Luther King, prix Nobel de la paix, réclamer devant le siège des Nations Unies l'arrêt des bombardements sur le Nord Vietnam et l'ouverture immédiate de négociations.
Pendant les années de son engagement contre la guerre du Vietnam, donc c'est en gros c'est sur 10 ans, hein, c'est de 64 à 75,
Ambrivol.
Zine est à la fois de mobilisation sociale de masse, les manifestations, les teach-ins, les débats contradictoires ou non organisés sur les campus aux États-Unis. Et dernière dimension de l'engagement de Zine contre la guerre du Vietnam, c'est sa participation en tant que témoin expert à de multiples procès de désobéissants en tout genre qui sont traînés devant les tribunaux pour justifier de leurs actes de désobéissance civile. Et Zine, là, va être sollicité de par sa qualité d'universitaire pour s'appuyer sur son expertise s'agissant de l'histoire de la désobéissance civile aux États-Unis. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Il y a des juges qui refusent de politiser l'espace en fait du tribunal. Mais dans un cas en particulier, c'est le cas des Camden 28. Les 28 de Camden sont des catholiques pacifistes qui détruisent des dossiers de conscription. Et ça marche, ils ne seront pas inquiétés.
Il y a une photo qui est vraiment tout à fait sympathique et même un peu plus, elle est même vraiment iconique.
Thierry DiCepolo.
Il y a une photo qui a été prise au début des années 70, à l'époque où Dean et Chomsky vont être probablement les plus proches, même s'ils se connaissent depuis quelques temps, puis qu'ils sont voisins à Boston. Voilà, sont quand même, il faut vous rappeler, deux universitaires blancs bostoniens de gauche, par ailleurs juifs aussi. Ils ont le même genre d'âge à peu près, même s'ils ont des profils qui sont extrêmement différents, des profils sociologiques extrêmement différents. Rappelons que Chomsky est le fils d'un rabbin et que Dean est le fils d'un vitrier. Mais tous les deux donc vont surtout se croiser au moment du militantisme contre la guerre du Vietnam.
Il fait partie du mouvement anti-guerre et donc il va soutenir les opposants, il va soutenir les war resisters, les militaires qui veulent pas y aller, qui refusent, qui reviennent.
Olivier Azam.
Il va soutenir tout ça parce que c'est cohérent dans sa démarche. Donc effectivement, Zine va faire partie des gens qui se mobilisent, comme Chomsky, qui vont se mobiliser, qui vont soutenir les mouvements anti-guerre dans lesquels ils apportent aussi leur regard de vétérans. Et ça, c'est redoutable pour le pouvoir d'avoir des vétérans qui parlent comme ça.
I remember when we began. I remember speaking at the early part of the war in a meeting in Boston.
Howard Zinn.
100 people showed up.
Je me souviens au tout début de ce mouvement, j'étais intervenu dans un meeting à Boston, 100 personnes.
3 years later, the same place.
3 ans plus tard, au même endroit.
100,000 people showed up.
100,000 personnes sont venues.
The movement became so great that the national government, with all of its power, had to think about whether to continue the war.
Le mouvement est devenu si massif que le gouvernement fédéral a dû reconsidérer, avec tout le pouvoir qu'il avait, son engagement au Vietnam.
Je dirais que avant même d'être universitaire, pour moi, Howard Zinn, c'est un lanceur d'alerte. C'est pas un intellectuel au sens où on l'entend aujourd'hui. Il est parmi les premiers, si ce n'est le premier universitaire, qui dira publiquement et qui rédigera un texte extrêmement important en ce sens en 1967, appelant au retrait immédiat des troupes états-uniennes du Vietnam. Et ce texte, c'est une espèce de pamphlet qui s'appelle « Vietnam, the logic of withdrawal », la logique du retrait. qui aura un succès immédiat, qui sera réédité à plusieurs reprises en l'espace de quelques mois, qui va circuler au sein du mouvement anti-guerre, qui va même être envoyé à des membres du Congrès. Enfin, c'est vraiment un ouvrage majeur qui va faire aussi du bruit dans la presse et qui va modifier la façon dont le débat sur les solutions pour sortir de cette guerre va être mené au sein du mouvement, mais aussi dans l'espace public plus largement.
Une des choses qui a attaché à la figure de Howard Zinn, c'est son une histoire populaire des États-Unis. L'ouvrage est une vaste fresque qui commence à l'arrivée de Christophe Colomb et qui donc, d'édition en édition, va être augmentée jusqu'à arriver, grosso modo, à la fin du XXe siècle. Évidemment, les parties anciennes sont traitées avec un peu plus rapidement que les parties plus contemporaines. Et évidemment, seulement 800 pages, on ne peut pas traiter dans le détail de l'intégralité des 5 siècles d'histoire des États-Unis d'Amérique, bien entendu.
Howard Zinn, j'ai lu son livre quand il est traduit en 2002.
Michèle Zancarini-Fournel, historienne, autrice de « Des luttes et des rêves, une histoire populaire de la France ».
Et je me suis dit tout de suite, il faudrait faire une histoire populaire de la France à la Howard Zinn. Parce que c'était tout à fait particulier, exceptionnel, comme type d'histoire. Et je pense que c'est quelqu'un qui est très très intéressant par son parcours dans une université de filles noires et sa première action avec ses étudiantes pour accéder à la bibliothèque municipale, je crois. De ce point de vue-là, c'est quelqu'un qui est important par toute son action dans sa vie et par son histoire populaire.
Howard Zinn, c'est celui qui a fait découvrir aux Américains leur vrai visage, leur vraie histoire. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus fort encore aux États-Unis qu'en France. C'est ce décalage qu'il y a entre ce qu'on appelle le récit national, qui fait beaucoup de mythologie, de mythes, un peu de l'histoire. Alors, il y a des grands trucs comme ça qui restent. La Boston Tea Party, Mayflower, l'arrivée des premiers Américains. Enfin, ça va faire Thanksgiving Day, par exemple, des choses comme ça. Des choses qui sont très marquées dans la culture américaine.
Olivier Azam.
Mais qui sont souvent des mythes dans lesquels on n'a pas vraiment approfondi les histoires. Et Zinn, dans son histoire populaire des États-Unis, amène les vraies histoires, en fait, depuis Christophe Colomb. Et Christophe Colomb, c'est ce qui va choquer le plus l'Amérique, parce qu'il raconte la véritable histoire de Christophe Colomb, mais il n'invente rien. Hein. Il ne fait qu'aller dans les sources chercher les docs qui étaient à disposition de tout le monde. Mais sauf que comme il attaque les mythes de l'histoire américaine, ça va effectivement avoir un effet énorme. C'est-à-dire d'une part faire prendre conscience aux Américains qui l'ont lu, et notamment aux profs qui vont servir de ce travail, mais aussi faire de la polémique, de l'interdiction, du bannissement du livre, enfin de la censure du livre dans certaines universités, jusqu'à Donald Trump qui... Il se révolte contre Zinn, en fait. Zinn finit par incarner tout ce que déteste Trump, et inversement, il commence à avoir une politisation extrême, d'ailleurs, du travail de Zinn.
Y a-t-il un pays dont l'histoire nous est assénée avec une régularité, une permanence de manière aussi importante que celle de ce pays ? Je ne crois pas qu'il y en ait un. Tout le monde a vu des histoires des Indiens et des cow-boys, tout le monde a vu des histoires sur les immigrés, tout le monde a vu même des films sur l'arrivée de Christophe Colomb, tout le monde a vu des films sur la guerre civile, sur la guerre d'indépendance. Tous les 6 juin, nous voyons arriver dans la télévision française, si j'ai bien compris encore aujourd'hui, le débarquement. Tout le monde a vu ça. Eh bien, Howard Zinn donne précisément l'arrière-plan historique réel de l'ensemble des mythologies dont on construit l'histoire des États-Unis au long cours depuis plus de 50 ans. Il en inverse le point de vue, puisqu'il va prendre le point de vue des acteurs qui ne sont justement jamais présents dans cet ensemble de propagande qu'on nous sert depuis toujours. Cette grande fresque est fondée sur une idée qui est une idée en rupture avec plusieurs autres manières de faire l'histoire. Donc Howard Zinn, à l'inverse de ce qu'on appelle couramment les récits nationaux, voire les romans nationaux, ne cherche pas à démontrer que les histoires de droit, les histoires officielles, les histoires nationalistes sont fausses. Il considère d'ailleurs même que la plus grande partie des grands hommes, souvent des grands hommes, rarement des femmes, qui sont au cœur de ces histoires officielles, ont leur place. Seulement, il va y ajouter un autre type d'acteur qui, lui, est en général très absent. L'image que je donne souvent, c'est, prenez les grands tableaux pompiers dans lesquels, au premier plan, vous avez les grands hommes du roman national, d'accord ? Et au loin, on voit des foules, des masses impossibles à définir, des figurants, des anonymes. Howard Zinn inverse cette perspective. Il va remettre devant le tableau tous ceux qui sont habituellement les figurants. Et remettre devant le tableau, au premier plan du tableau, les figurants, c'est transformer les figurants en acteurs historiques. Et c'est ça le travail que mène Howard Zinn.
L'histoire populaire des États-Unis, c'est un ouvrage qui retrace les grandes luttes sociales qui ont émergé aux États-Unis depuis la découverte des Amériques par Christophe Colomb jusqu'au premier mandat de George W. Bush. C'est un contre-manuel d'histoire des États-Unis. C'est un ouvrage qui couvre plus de 500 ans de faits historiques. En gros, ce que Zinn fait dans le bouquin, c'est qu'il traque les épisodes contestataires, les petits et les grands. Donc, il fait un travail d'exhumation d'épisodes plutôt méconnus, et puis un travail aussi plus fouillé sur des épisodes un peu plus mainstream, disons. Donc, c'est un ouvrage majeur parce que c'est la première synthèse historique concernant les États-Unis, qui fait basculer le point de vue des puissants, des élites, aux expériences collectives des opprimés, des oubliés et des militantes et militants sur le temps long de l'histoire des États-Unis. Donc c'est pour ça que c'est un ouvrage qui est passionnant, puisque du coup il est foisonnant, quoi. À la fois on y retrouve raconté les horreurs qu'ont subies les Premières Nations, l'horreur de l'esclavage, l'abomination de l'exploitation économique, l'oppression des femmes, combinée avec les moments où ces opprimés se sont organisés, se sont coalisés pour résister à leurs conditions et pour tenter de changer leur situation.
Ça veut dire, par exemple, s'intéresser à des histoires comme le massacre de Ludlow, Colorado, où il y a un massacre de grévistes dans une mine qui va poser les fondements de la doctrine Rockefeller. Il ne veut pas leur laisser penser que la lutte, ça peut marcher. Le massacre de Ludlow, c'est une grève qui a lieu dans le Colorado, une grève de mineurs. Et à ce moment-là, les grévistes tiennent le siège, enfin, ils font le piquet de grève, ils bloquent. Et Rockefeller va envoyer les troupes avec la complicité de l'État. Ils envoient des troupes, des soldats, et ils vont tirer à la mitraillette sur les grévistes. Voilà, c'est un massacre qui est peu connu dans l'histoire des États-Unis, mais qui, pour Zinn, fait partie des histoires, voilà, qu'il a mis en avant, qui racontent et qui permettent de comprendre beaucoup de choses sur l'histoire des États-Unis. Par exemple, comprendre que c'est une histoire de forte lutte des classes, ce qui n'est pas du tout évident du point de vue français quand on ne connaît pas l'histoire. On n'a pas l'impression qu'il y a eu une lutte des classes aussi violente. Et en même temps, de la doctrine de Rockefeller qui va être la doctrine qui va perdurer. C'est-à-dire l'idée qu'il ne faut pas leur laisser penser que la lutte, ça peut marcher. Cette doctrine qui va être reprise plus tard par la descendance Rockefeller au moment de Attica, d'une révolte dans les prisons dans les années 70, ça va être des moments qui marquent chaque fois ce rapport très dur qu'il y a aux États-Unis et qu'on connaît mieux en France, qui est un rapport dans la lutte des classes. Quand on dit lutte des classes, c'est vraiment, là on est vraiment dans une lutte dure et armée.
Despite this ideology of we are all one, we are a classless society, you know, the word class just, you know, not part of the American vocabulary.
Vraiment, le terme de classe ne fait pas partie du vocabulaire américain. On se voit comme une société sans classe.
But despite all of this, there have been class struggles all through American history. From the very beginning, I mean, before the Revolutionary War, there were riots, food riots here in Boston. Rebellions of servants against masters. There was class struggle. and conflict, tenants against landlords, people going, farmers going into jailhouses to rescue people who had been put there because they couldn't pay their debts. So, you know, that's part of American history which is not taught about in American schools.
Et c'est vraiment toute une partie de l'histoire américaine qui n'est pas du tout enseignée dans les écoles américaines, alors que l'histoire américaine, précisément, si elle se voit comme une société sans classe, n'est parcourue de fond en comble depuis de ses origines de lutte de classe.
J'aurais bien aimé pouvoir vous dire que j'ai découvert l'histoire populaire des États-Unis d'Amérique de Howard Zinn dans un film qui est un film de Gus Van Sant qui s'appelle Good Will Hunting. C'est donc Matt Damon et Ben Affleck qui ont rédigé ce scénario qui a été donc mis en scène par Gus Van Sant, dans lequel on voit Matt Damon conseiller à son professeur un livre qu'il sort discrètement de la bibliothèque, lui demander s'il l'a lu, et ce livre c'est A People's History of the USA de Howard Zinn.
You want to read a real history book? Read Howard Zinn's People's History of the United States. States, that book will fucking knock you on your ass.
Better than Chomsky's Manufacturing Consent? You think that's a good book?
How can people baffle me?
En octobre 2002, autant que je me souvienne, quand le livre paraît, on fait un tirage à la fois modeste mais pas négligeable, qui est de 5000 exemplaires, d'accord, qui va être épuisé en moins de 2 mois. Et ensuite, ce seront des tirages de 10 000 exemplaires qui vont être vendus tous les ans pendant plusieurs années, jusqu'à aujourd'hui où on a dû dépasser les 90 000. Et surtout, immédiatement, une réception extrêmement enthousiaste des lecteurs.
I know that he continues to provide inspiration.
Je sais qu'il continue d'inspirer et de donner de l'espoir, parce qu'il a ce message simple qui est que les actions d'individus peuvent avoir un impact sur le monde.
Jeff Zinn, fils d'Howard Zinn.
Et c'est le fait de s'organiser, d'entrer en dissidence, en résistance à échelle individuelle, puis on passe à une échelle de petits groupes, puis de groupes de plus en plus larges, qui peut vraiment faire la différence. Je vois que tous les jours, on continue de le citer, de faire référence à lui, de s'inspirer de ses actions et de ses paroles.
Alors, une histoire populaire, à mes yeux, c'était une histoire qui parlait des gens d'en bas.
Michel Zancarini-Fournel.
C'est-à-dire réfléchir à une histoire qui ne soit pas centrée sur les personnages puissants et donc les examiner de toute façon et partir de la vie, alors à la fois de la vie quotidienne et aussi des insurrections, rébellions, refus. Donc des gens d'en bas, d'accepter la domination, et donc ce qu'ils peuvent faire pour changer le cours de leur vie. Howard Zinn a initié ce type d'approche historique en faisant plus sans doute que je n'ai voulu le faire, une histoire militante. L'histoire française est très très... rebelle, on peut dire, en tout cas, n'aime pas l'histoire militante. Et donc, c'est une façon aussi de se déporter par rapport aux conceptions de Howard Zinn, pour ce qui me concerne. Ne pas faire une histoire militante, ça ne veut pas dire ne pas faire une histoire qui informe sur effectivement les actes de rébellion, sur les luttes, etc.
C'est une fresque, parce qu'on sait très bien que l'histoire populaire des États-Unis, c'est un gros morceau, et que ce qu'il nous a raconté est énorme, et qu'on a énormément raconté. Et donc, on va à la fois être dans le récit de l'histoire de Zinn, qui est totalement associée à l'histoire qu'il raconte. C'est-à-dire que c'est pas simplement un historien qui fait de l'histoire, c'est aussi quelqu'un, un historien qui a vécu avant de faire de l'histoire. Son histoire traverse celle du XXe siècle, parce que c'est un enfant des années 30, né dans les quartiers populaires de Brooklyn. Donc il a toute cette histoire de la classe ouvrière de sa génération. C'est ensuite le bombardier de la US Air Force dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est un prof dans le sud des États-Unis. Il est prof en Géorgie au Spelman College, dans une université de femmes noires. Il participe à la lutte des droits civiques. Il est très actif, en fait, même si c'est pas lui qui est leader, il soutient, mais en tout cas, il est très actif. Et tout ça va l'entraîner aussi à être un des premiers militants très actifs contre la guerre du Vietnam. Donc l'histoire de Zine elle-même, c'est un bout de l'histoire du XXe siècle américain.
Si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est comme si vous étiez né hier. Si vous êtes né hier, alors n'importe quel leader peut vous dire n'importe quoi.
C'est vrai que le livre a eu un gros succès dans les années 80. Ça a créé beaucoup de réactions. Et Zine n'a pas été apprécié par les autres historiens américains, y compris en France d'ailleurs. Il a été beaucoup critiqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a un point de vue. Et c'est là que je trouve formidable Howard Zinn par rapport à d'autres historiens, c'est qu'il ne nie jamais le fait que c'est un récit, l'histoire, et qu'il a un point de vue. Mais lui, il dit oui, d'où il parle. De sa propre enfance, de ce qu'il a vécu en tant qu'enfant de la classe ouvrière. Et donc, effectivement, il dit, ben voilà, c'est de ce point de vue-là que je parle. Mais il n'empêche qu'il travaille sur des faits. Il ne surévalue jamais quelque chose, il ne surinterprète jamais, il n'exagère jamais un chiffre, par exemple, qui pourrait la... Il est plutôt dans une attitude assez scientifique sur le plan historique. Puis, il se permet de donner un récit. Et je trouve que c'est assez honnête parce qu'il le dit d'entrée, quoi. Il dit, attention, je ne suis pas neutre et je ne vais pas vous parler d'une façon neutre. Ce que ne font pas les autres historiens, souvent, qui le critiquent, qui eux disent, nous, on a une sorte de vérité, l'histoire c'est comme ça, et lui c'est une espèce de marxiste insupportable. On est dans quelque chose qui est effectivement, je trouvais frappant, parce que ce n'est pas l'idée de dire que l'histoire serait objective.
When you go to school in the United States, you are given a textbook of history.
Quand vous allez à l'école aux États-Unis, on vous donne un manuel d'histoire.
Which is very fat.
Qui est très épais.
And you then deceived into thinking that it is all there, the history, the entire history.
Tout est là dans ce livre. L'histoire entière des États-Unis tient dans ce livre.
And you are not told that so much has been omitted.
Et on ne vous dit pas que tel et tel aspect de l'histoire américaine a été omis.
But as soon as you begin to think about the process of writing history.
Mais dès lors que vous commencez à réfléchir au processus qui amène à écrire l'histoire,
you realize that objectivity is impossible.
Vous vous rendez vite compte que l'objectivité est impossible.
Because the historian, like the journalist, has to select out of an enormous number of facts and decide what is important.
Car l'historien, comme le journaliste, doit sélectionner dans une masse énorme de faits ce qu'il va mettre en avant.
And so the history books have always reflected what the upper classes thought was important.
C'est pourquoi les livres scolaires ont toujours reflété ce que les classes dirigeantes ont considéré comme primordial.
Howard Zinn dit qu'on ne peut pas être objectif dans l'histoire, qu'il faut prendre parti, qu'il faut prendre position. Je pense que la question de l'objectivité est effectivement une question épistémologique qui peut se discuter. La question, c'est du rapport aux preuves, aux sources, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut avancer pour démontrer ce qu'on écrit, dont un récit historique. Donc d'une certaine façon, Howard Zinn a à la fois raison. Et il y a quelque chose qui n'est pas courant en France, encore que cela change depuis une dizaine d'années, c'était le fait que les historiens et historiennes expliquent d'où ils venaient, en quoi leur vie, leur expérience personnelle ou familiale pouvait agir sur leur écriture, leur recherche, etc. C'était très courant aux États-Unis. Pendant longtemps, en France, on s'est un peu moqué de cette habitude d'expliquer d'où on venait au début. Et ça change. Il y a beaucoup d'historiens maintenant qui disent les choses. Donc c'est un pas de côté par rapport à ce qu'on appelle l'objectivité, qui est aussi partie prenante de l'histoire personnelle de celui ou de celle qui écrit.
Déconstruire des mythes, c'est surtout aux États-Unis, c'est énorme en fait, parce que c'est vraiment ancré quand on écoute comment le personnel politique s'accapare des grands mythes américains et les utilise, y compris pour faire la guerre. c'est pas rien, je veux dire, c'est pas juste comme ça des petites idées. Thanksgiving Day, c'est aussi l'occasion parfois pour les présidents américains de rappeler, d'appeler les troupes, de rappeler, par exemple, on peut trouver cet archive, c'est 2003, je pense, le président George W. Bush va en Irak, à Bagdad, partager la dinde, qui en fait s'avère être une dinde en carton, mais bon, pour l'image, c'est une dinde, de Thanksgiving Day, pour dire, voilà, on partage cette histoire en commun, et en même temps, on est en train de faire la guerre en Irak, donc qui était elle-même basée sur un mensonge. Donc, le lien entre l'histoire, l'utilisation, la récupération politique de l'histoire, et la façon dont elle a des conséquences, y compris dans les guerres, c'est pas juste un débat intellectuel.
Howardin a écrit plusieurs pièces de théâtre. Son amour pour le théâtre monte aux années 30, en fait, lorsqu'il découvre le théâtre politique.
En Brivolle.
Le théâtre militant. Et il a dans sa famille de nombreuses personnes qui sont amoureuses de théâtre, qui ont fait du théâtre elles-mêmes. Donc sa femme d'abord, sa fille et également son fils.
Je garde un très bon souvenir de mon père. Tout au long de ma vie, y compris jusqu'à l'âge adulte. Notamment, je me souviens de l'expérience de mettre en scène sa pièce. Pour moi, ça a été une belle opportunité de collaborer sur le plan artistique, d'une manière qui n'avait pas été possible précédemment. Je dirais que cette fois, on a vraiment travaillé sur un pied d'égalité, sans oublier pour autant qu'on était père et fils. Évidemment, il avait des avis très tranchés sur les choses. Et quand on était en désaccord, on pouvait avoir des discussions très animées. Mais évidemment, il n'allait jamais adopter une posture autoritaire ou dominante. C'était impossible. Ce n'était pas dans sa personnalité.
Il adorait le milieu du théâtre. Zin y vient sur le tard, non pas en tant qu'acteur, mais en tant qu'auteur. Il a d'abord écrit une première pièce sur l'anarchiste féministe Emma Goldman au milieu des années 70, puis une seconde pièce concernant les rapports entre un père et sa fille sur fond de course aux armements, 90, et puis enfin sa pièce sur Marx, hein, Marx le retour, qu'il écrit en 1999.
Le capitalisme a triomphé. Triompher ? Et en quoi ? Parce que les marchés ont grimpé jusqu'au ciel ? Et que les actionnaires sont encore plus riches qu'avant ? Triompher ? Quand un quart des enfants américains vit dans la pauvreté ? Quand chaque année 40 000 d'entre eux meurent avant leur premier anniversaire ? Oui, le capitalisme l'a emporté, mais sur qui ? Pourquoi les gens sont-ils aussi terrorisés ? Pourquoi se tournent-ils vers la drogue, vers l'alcool ? Pourquoi deviennent-ils fous furieux ? Et se transforme-t-il en tueur ? Eh oui, c'est dans le journal ! Pourquoi diable ai-je écrit Das Kapital ? Si ce n'est parce que je voyais la misère du capitalisme, du système de libre entreprise ! Personne ne lit plus l'histoire ! Quel genre de merde enseigne-t-on dans les écoles par les temps qui courent ?
Cette pièce de théâtre, en fait, elle présente Marx comme s'il avait eu le droit de revenir une heure sur Terre parmi nous. Il arrive à Soho, à New York, et c'est un peu une erreur bureaucratique, puisque lui, il a vécu à Soho, mais à Londres. Il n'a jamais été aux États-Unis, Marx.
Iris Puy, autrice de BD, dont Marx, le retour, chez Revival Edition.
Donc voilà, il arrive aux États-Unis et puis en se baladant un peu dans la rue, il se remémore des choses de son histoire. Donc là, c'est pour les parties biographiques un peu de la vie de Karl Marx. Et ensuite, il parle aussi de tout ce qu'il observe. Et ça, c'est plus l'analyse de Howardin qui parle à travers le personnage de Marx. L'histoire se passe à Londres principalement, à la fin du 19e. Donc ça, c'est pour la vie de Karl Marx. Mais il y a aussi toute une partie où il est donc en 1999 à New York. Et donc, à travers ma BD, il était plutôt en 2020 à New York, parce que j'ai dû actualiser un tout petit peu le texte. Voilà, donc il y a plusieurs périodes dans la même histoire. Donc une scène par exemple qui m'a plu à illustrer, c'est en une page, il fallait un petit peu résumer Das Kapital de Karl Marx. Alors voilà, c'était une sacrée affaire. Et donc Howard Zinn le résume très succinctement en expliquant en fait comment fonctionne le système capitaliste. Et du coup, moi j'ai choisi de représenter un gros bateau qui est comme une sorte de un grand paquebot en fait, où on voit au début des pêcheurs qui sont près du paquebot sur une petite barque et le paquebot en train de se construire. Et après, on voit donc ce magnifique bateau qui va à toute allure sur les flots. On voit les personnes qui sont en train de boire du champagne, alors qu'à la cave, il y a les ouvriers qui sont dans la fumée en train de faire marcher toute cette machine. Et puis, comment à la fin, donc le capitalisme qui est, comme vous l'avez compris, représenté par ce gros bateau, est voué à s'échouer et que les gens arrivent sur une île déserte et ont peut-être tout à reconstruire. Voilà, j'ai choisi cette image-là qui est peut-être un peu bateau, mais qui au moins me permettait en une page voilà, de représenter un petit peu ce large concept. Ce qui m'a plu dans cette pièce de théâtre, c'est que c'est un peu, je pense, justement à l'image d'Howard Zinn, c'est-à-dire qu'il y a des éléments biographiques de la vie de Marx, il y a aussi la pensée de Howard Zinn. Il y a des choses complètement fantaisistes, d'autres choses qui sont de la vie de Marx, en fait, telle qu'elle. Donc, c'est un espèce de mélange comme ça que je trouve très original. C'est un texte qui n'a pas du tout vieilli. Enfin, il a déjà, j'ai du mal à faire le compte, mais 25 ans peut-être. Et il n'a pas vieilli. Et puis, ce que dit Marx n'a pas vraiment vieilli non plus. Donc, tout ça, pour moi, peut durer encore longtemps. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec Howard Zinn, même si malheureusement, il n'est plus des nôtres. J'adore son humour, sa façon de parler. Enfin, j'avais l'impression qu'il était avec moi, c'était super agréable.
Il faut commencer par se rappeler qu'on n'est pas en France, on est aux États-Unis, d'accord ? Donc déjà, le marxisme aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'en France, et l'anarchisme non plus, d'accord ? D'abord, c'est même pas les mêmes théories, c'est même pas les mêmes personnages, c'est même pas les mêmes références, même si les grands, évidemment, les grands auteurs sont les mêmes, c'est pas la même chose.
Thierry Dissépolo.
Parfois, j'ai l'impression que ça n'a absolument rien à voir. Quand on pense à la Fédération anarchiste en France, on imagine quasiment aucun point commun entre des figures comme Zinn ou Chomsky, qui se réclament dans l'anarchisme, et la FA. Donc, lui-même se définissait comme anarcho-marxiste. Si ça veut dire quelque chose, voilà, il utilisait volontiers cette double affiliation. Ça veut dire, d'une part, qu'il prenait au marxisme un certain nombre d'outils d'analyse des rapports de domination surtout, ni évidemment de théorie de l'histoire, ni tout ce lourd appareil qu'on attribue habituellement au marxisme. Mais en revanche, pour les rapports de domination, oui, notamment les rapports de domination économique, les rapports de classe, bien sûr. Son histoire populaire des États-Unis ne peut pas être comprise en éliminant une histoire du point de vue des rapports de classe. Donc, en ce sens-là, il est marxiste, mais c'est très léger. Et de l'anarchisme, évidemment, il retient le refus de l'autorité. Il montre que, à chaque moment, chaque avancée sociale, chaque progrès social, chaque émancipation, chaque réduction des conditions de domination sont le fait d'une mobilisation d'hommes, de femmes, d'esclaves, de syndicalistes, de militants, de religieux aussi, contre les conditions sociales qui les oppressaient. Et que, sans eux, même si à la fin, ça n'est pas le niveau de victoire qu'on aurait espéré, on n'aurait eu même pas un plus petit début de victoire. Alors qu'on est obligé de constater qu'assez régulièrement, ces avancées sont dues à la bataille de ces oubliés de l'histoire.
We have to have faith that the things that we do will have an effect, even if we can't see them.
Il faut, je crois, qu'on ait la foi dans l'effet que peuvent produire nos actions.
And you have to keep trying. It's like
il faut continuer à essayer.
Like you're trying to start a fire and you light a match.
Comme quand on essaye d'allumer un feu.
And it doesn't catch.
La première
nothing
allumette
happens.
And
you light
pas.
Another match and another match and another match and 20 times nothing happens.
Seconde allumette, troisième allumette, au bout de la 20e, toujours rien ne se passe.
And then you light a match exactly the way you did before and the fire starts.
Et puis on allume une allumette exactement comme on l'avait fait avant et là un feu prend.
Qu'est-ce qui nous apporte Zinn à la lecture ? Bon, effectivement, une autre vision qu'on a nous-mêmes des États-Unis par rapport à toute la propagande, hein, je peux dire ça comme ça quand même, de la culture américaine importée par le cinéma, par Starbucks, McDonald's, enfin, on est quand même dans un environnement très américanisé. Donc il nous donne une autre vision déjà. Mais au-delà de ça, je pense que c'est très universel parce que il nous donne une approche aussi des événements historiques qui est à la fois critique et qui nous permet aussi de voir que effectivement, alors lui, il est pas, on peut pas dire que ce soit un historien woke dans le sens où qui est déformé aujourd'hui par le débat médiatique, mais il a quand même apporté un regard sur l'histoire à travers le regard des femmes, des noirs, des ouvriers, des ouvrières, de tout un monde qui n'était pas représenté dans le récit historique. Et après, comme utilité, moi je trouve que dans les luttes déjà, et dans l'espoir que ça suscite, les micro-événements qui font que on n'y fait pas attention parce que ce n'est pas surmédiatisé, mais ça va faire le terreau de ce qui va finalement faire le progrès social. Parce que finalement, toutes ces petites grèves, toutes ces petites luttes qui paraissent sans importance parce qu'elles ne sont pas ultra médiatisées, au bout du compte, ça constitue quelque chose qui va amener finalement au progrès social. Et donc, il amène de l'espoir. Face à la résignation, et là je reviens à la doctrine de Rockefeller, cette idée que le pouvoir a de dire qu'il ne faut pas leur laisser penser que la révolte, ça peut marcher, Zine, c'est tout le contraire. C'est pas de la propagande, ça nous rappelle une vérité historique. Et le changement et le progrès social ne s'est jamais obtenu parce qu'on a tendu la main en disant s'il vous plaît. Ça s'est fait dans un rapport de lutte. Et ça fait ce rappel essentiel, il me semble.
L'histoire est aussi un champ des possibles. C'est-à-dire un champ des possibles qui n'ont pas forcément abouti, mais qui à un moment ont pu représenter une espérance, un rêve, l'idée d'un avenir futur, radieux. La situation actuelle, effectivement, ne nous incite pas à construire une idée d'un avenir radieux et d'un changement qui, de toute façon, ira vers le bonheur humain. Mais l'histoire, justement, de ces espérances montre que ça existait, que pour ces gens-là, à un moment précis, il y a eu cet espoir-là. Et donc, c'est le fait que l'histoire peut servir à essayer de réfléchir à des espoirs qu'on pourrait avoir pour essayer de changer le monde tel qu'il est aujourd'hui.
Merci à Ambre Ivol, maîtresse de conférences en études anglophones à Nantes Université, Thierry Dissépolo, éditeur des ouvrages de Howard Zinn en France chez Agon, Olivier Azam, cofondateur de la maison de production Les Mutins de la Pangée, auteur de la série documentaire sur Howard Zinn avec Daniel Mermet, à Michel Zancarini-Fournel, historienne, autrice des Luttes et des Rêves, une histoire populaire de la France. Merci aussi à Iris Pouy, autrice de BD, qui a signé l'adaptation Marx le Retour. Et Jeff Zinn, fils de Ward Zinn, homme de théâtre. Prise de son, Jean-Benoît Tétu, Virginie Lorda, Claire Levasseur. Mixage, Antoine Viossa. Archive INA, Vincent Samuel. Chargé de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Howard Zinn, l'autre visage de l'Amérique. Un documentaire de Pierre Lorimi, réalisé par Gilles Blanchard.